de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans son journal, le 20 janvier 1910, André Gide disait ceci de la comtesse de Noailles. Madame de Noailles parle avec une volubilité prodigieuse. Les phrases se pressent sur ses lèvres, s'y écrasent, s'y confondent. Elle en dit 3, 4 à la fois. Cela fait une très savoureuse compote d'idées, de sensations, d'images. Un tutti frutti, accompagné de gestes de mains et de bras. Dieu surtout qu'elle lance au ciel dans une pâmoison pas trop feinte, mais plutôt trop encouragée. Il faudrait beaucoup se raidir pour ne pas tomber sous le charme de cette extraordinaire poétesse au cerveau bouillant et au sang-froid. Poétesse et romancière, aristofantasque d'origine roumaine, la comtesse Anna de Noailles est morte, à Paris, le 30 avril 1933. Elle a laissé derrière elle ce qui deviendra le prix Femina et un engagement pour la cause des femmes. Voici Anna de Noailles, poétesse extraordinaire, une pièce radiophonique qui lui était consacrée, et qui fut diffusée en 1954 dans l'émission « Leur figure » de Jean Amrouche à la radiodiffusion française. Un texte de Dominique Arban et une réalisation de Jean-Jacques Vierne.
La radiodiffusion française présente « Leur figure », une émission de Jean Amrouche. Aujourd'hui, Anna de Noailles, poétesse extraordinaire, texte de Dominique Arban. Avec René Faure, sociétaire de la Comédie Française, Paul Bernard, Lolé Bellon, Charles Camus, Anne-Marie Cortis, Frédéric Hébrard, Jacques Mancier, Robert Marcy, Pierre Olivier et Pierre Rénal. Bruitage, Gabriel de Rivage. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.
Ici, la librairie de France. Ah, parfaitement, oui, madame, oui. Le cœur, comment ? Innombrable, de madame de Noailles. S'il y a un cœur, du cœur innombrable. Ah, épuisé, madame. Oh, sûr, tout à fait sûr. Le cœur innombrable a été épuisé l'année dernière. Comment dites-vous ? Les éblouissements. Oh, mais on n'en demande plus du tout des éblouissements. C'est pourquoi, madame, pour la radiodiffusion française, oui. Une émission de Jean Amrouche, oui, parfaitement. La comtesse de Noailles, texte de Dominique Arban, oui, parfaitement. Et il n'y a plus en vente que... Attendez. Voilà. Madame de Noailles, l'ombre des jours. Et encore les vivants et les morts. Oui, c'est tout, oui. Je vais vérifier sur le catalogue, ne quittez pas.
Nous allons donc tenter de faire revivre l'ombre de vos jours, comtesse de Noailles. Et nous demanderons aux vivants et aux morts...
Allô, allô? Je viens de vérifier, madame. On ne réimprime pas pour l'instant le cœur innombrable. On n'en demande pas. Non, pas du tout.
Est-ce tellement sûr? Êtes-vous déjà allé à Amphion, monsieur le libraire? À Amphion, oui, chez la comtesse de Noailles, justement. Dans ce jardin, quand des centaines de vers elle a chanté. La technique a fait de beaux progrès et je peux vous emmener sur les ondes de la radiodiffusion française jusqu'à cet arrêt d'autocar. D'ailleurs, il arrive, l'autocar. Le voici qui vient, sur la route des Viens. De l'autre côté du lac, voyez Lausanne dans le paysage encamailleux, bleu de lac, bleu de montagne, bleu de ciel. Voici le car. Il est plein. Ça fait un certain nombre de curieux pour Madame de Noailles. Dirais-je de pèlerins. Voici.
Amphion, visite au monument de la comtesse de Noailles. Les voyageurs pour visiter, descendez s'il vous plaît. Amphion, 20 minutes d'arrêt. Oh,
qu'il fait beau.
C'est ici qu'elle vivait.
La maison, là?
Eh oui, le jardin descend jusqu'au lac.
C'est joli.
Ah, très.
Oh, mais il n'est pas là, le guide?
Monsieur le guide, on vous attend.
Regarde les cartes postales. C'est sa photo? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit?
La comtesse de Noailles, première femme française qui fut nommée commandeur de la Légion d'honneur.
Allez, voilà.
Là, voilà le guide. Voilà le guide.
Par ici, messieurs, dames. Contournez le massif de buis. L'allée descend tout droit vers le lac. Le monument est au bout.
C'est ce petit temple?
Il est rose.
C'est de la brique, au moins. Ce n'est pas mal sur le bleu du lac.
Tu trouves ça joli?
Tais-toi un peu.
Groupez-vous, messieurs, dames. Faites silence, s'il vous plaît, monsieur. Anna Elisabeth Bassaraba de Brancovent, comtesse Mathieu de Noailles, femme poète français, est née à Paris le 15 novembre 1876, morte à Paris le 30 avril 1933. Elle avait pour père Grégoire Bibesco et pour mère Raluca Musurus, fille de Musurus Bey, grec Fanariote, qui fut ambassadeur de Turquie à Londres. Son âme s'est ouverte à la beauté du monde dans cet endroit où vous êtes, le jardin de la Villa Brancovent, en Fion, Haute-Savoie. Elle fit ses premiers vers à l'âge de 8 ans. Elle en avait 21 quand elle épousa un des plus grands noms de France dans l'église de Publier près d'ici, le comte de Noailles. À Paris, elle fut la reine des salons littéraires, une muse de la République, comme il disait.
Il est parfait, le guide.
Son premier livre, Le cœur innombrable, parut quand elle avait 25 ans. En 1921, l'Académie française lui donna son grand prix de poésie. En 1922, elle fut reçue membre de l'Académie royale de Belgique. Au milieu du petit temple que voici, regardez cette urne. Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, son cœur n'est pas dans cette urne. Il est au couvent des Clarisses, à Publier. Et son corps est à Paris. Et c'est tout. Eh bien, n'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.
Tu en connais des vers d'elle, toi qui es si...
Naturellement que j'en connais, tiens ça. Étranger qui viendra lorsque je serai morte, contempler mon lac genevois.
Elle a écrit ça pour nous.
Laisse que ma ferveur dès à présent exhorte à bien aimer ce que je vois. Au bout d'un blanc chemin bordé par ces prairies s'ouvre mon jardin odorant.
Ils s'en vont. C'est à vous de venir, Anna de Noailles. L'hommage des curieux s'éloigne. Dieu merci, la nature offre une autre louange à vous qui voulûtes tant l'aimer. Les brises, les soupirs de l'eau, le passage plané d'une mouette, l'indistinct murmure de ce saule pleureur.
C'est là que dort mon cœur, vaste témoin du monde.
Ces vers, c'est à vous, Madame de Noailles, de les dire. Vous êtes loin. Pas tellement, d'ailleurs, sans doute. Vivante, vous étiez tant éprise des morts que vous devez, parmi les morts, être la plus vivante. Vous le saviez d'avance, vous qui, songeant à votre mort, écriviez « Mais ceux-là qui liront les pages de mon livre viendront le cœur blessé de langueur et d'envie, car ma cendre sera plus chaude que leur vie. » Les voix se taisent. Elles se sont tues. Ne viendrez-vous pas? Vous savez bien que vous ne nous direz que ce que vous avez déjà dit ou déjà écrit. Vous savez bien que sur ces ondes, chacun ne parle qu'avec des mots déjà écrits. Venez. Nous vous attendons, Madame de Noailles. Nous vous attendons. Une attente si volontaire, si précise, au lieu même où vous avez le plus chaleureusement vécu. Et vous nous donnez vous-même l'audace de vous appeler, car vous avez écrit, souvenez-vous, souvenez-vous. Pourquoi ne pas admettre que le rappel de la physionomie et de l'âme qui nous était chère constitue des rencontres momentanément réelles et familières, dont tout le malheur de la vie est qu'elle ne soit qu'imaginaire.
Qu'imaginaire.
N'était-ce que l'écho sur le lac? Il nous reste à demander à l'un de vos plus illustres et de vos plus fervents admirateurs de rendre votre présence parmi nous possible. Pour mieux vous rencontrer, en ce livre qu'il intitula « Anna de Noailles et le climat du génie », Charles Dubos est venu ici. Il y est resté près de vous, qui déjà n'étiez plus. Et que dit-il dans sa piété, lui qui s'avoue transpercé par certains de vos vers?
Elle est morte, et c'est un étranger qui vient à Amphion. Amphion qui a reçu d'elle en retour tout ce qu'à l'origine elle lui dut. Amphion dont elle disait « Il n'est pas un plus pur, un plus doux paysage, un plus familier infini. » Il règne ici un calme, une épaisseur et une intensité de calme. Et aussitôt le problème surgit. Comment d'un tel calme, une telle véhémence est-elle née? Et que fut dans ce clair jardin cette enfance du génie?
Vous voici prise à votre propre piège, comtesse de Noailles. L'étranger que voilà est un de ces esprits que vous avez le mieux enchanté. Et c'est à votre enfance qu'il pense pour essayer de vous rejoindre. Vous ne pouvez plus vous taire. Nous savons bien que nous n'entendrons pas votre étonnante voix, votre voix d'ombre seulement. Est-ce déjà ce murmure, si proche de nous et si proche de vous?
Ma douce enfance, ô mon enfance, ô mon ami.
Et si nos tumultes et nos curiosités vous interdisent nos seuils sonores, parlerez-vous, ombre d'Anna de Noailles, à l'ombre inclinée de Charles Dubos? Lui parlerez-vous de cette petite fille d'Amphion, dont vous seul savez tout? Cette petite fille dont nous avons vu l'autre jour le collier de corail rose dans la vitrine d'exposition de la Bibliothèque nationale. Une petite fille dont nous ne savons rien.
Rêveuse et raisonnable, une petite fille recherche son équilibre dans l'extrême dignité. En ne se permettant de former que des souhaits mesurés, en remerciant avec effusion, et fière et timide, elle s'avance ainsi pendant des années, ingénument, vers l'heure de son pouvoir prodigue et dévorateur.
L'enfance, cela veut dire avant tout une mère.
Belle, juvénile, rieuse, ma mère ingénue goûtait sans le savoir au plaisir et à tous les triomphes de la vie, mais elle n'attachait de prix qu'à l'infortune, au sublime, au sanglot. Mon admiration pour elle, comme ma nature même, me portait à l'imiter. Et plus sensible qu'elle, je transformais en douleur la joie. Je ressentais jusqu'à la détresse insupportable l'excès de la suavité. Ma mère, nous la contemplions avec ferveur quand elle s'approchait du piano. Des amis fanatiques l'y contraignaient. L'autorité de ses mains énergiques et volantes arrachait à l'ivoire et à l'ébène ses plus beaux sons, les plus profonds, les plus allègres qu'on puisse entendre. Cette noble musique en grande véhémence, tout au long de ma vie, m'aida.
Véhémence, ce fut le tempo même de votre vie.
Quant à moi, je malmenais Beethoven, Mozart, Chopin, Mendelssohn en les entraînant dans une sorte de ronde enthousiaste. Ma mère, prêtresse sans défaut des suaves mathématiques, se précipitait sur moi comme sur un début d'incendie et m'arrachait les mains du piano. Pour ma part, j'étais fière de mes attaques guerrières sur l'ivoire et sur l'ébène. Ma hardiesse m'enivrait. Le pied appuyé sur la pédale résonante, je conquérais un monde invisible et divin.
Cette pédale résonante, vous n'alliez pas cesser de l'appuyer sur toutes les pédales de toutes les musiques.
«
entravé dans mon expansion une promesse intérieure, encourageante, m'affirmait qu'il me serait donné un jour de me dépenser entièrement. Puissance du verbe, action sonore de l'éloquence, domination de la poésie, je vous prévoyais obscurément dans ces instants de modeste dépit. Vint le temps...
Pas encore, pas encore. Restons encore ici. Cette petite fille que vous étiez, que l'on servait aux princes et aux rois pour un baiser de bienvenue.
Édouard VII, prince de Galles, prit le thé sur notre véranda. Mistral y vint. J'ai été élevé parmi les rois, les diplomates, les écrivains.
Il est quelqu'un aussi dont vous avez dit « Je fus son enfant ».
Victor Hugo. On peut ignorer, oublier, renier ce qu'on doit à Hugo. C'est là l'ingratitude naturelle à ceux qui, dans les jours indigents, se sont nourris du pain des dieux. Pour ma part, dès que je le lus, il me subjugua entièrement et je fus son enfant.
Partons-nous ? Est-ce la dernière fois que le petit bateau à vapeur de votre père glisse par les eaux souvent coléreuses du lac, emportant une adolescente qui, à l'heure du tangage et du roulis...
À l'heure du tangage et du roulis, je réfugiais mes vertiges dans une cabine tendue d'un drap couleur des flots. C'est là que, regardant par le hublot se soulever près de mon épaule l'épaule bleue des vagues, je connus la séduction de Musset. Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, j'accueillais ces vers en mon cœur avec le trouble des adolescentes pour qui le poète de l'obsession amoureuse sera éternellement le premier amant.
Mais le premier amour fut, comme le disait le guide, un des plus grands noms de France. Et aussi, ce que le guide ne savait pas, un des plus beaux visages de jeune homme. Mathieu de Noailles regagna Paris avec sa femme, et parmi les premiers regards qui se posèrent sur vous à Paris, il y eut le regard de Madame Colette. Nous allons avoir cette chance, voir d'abord Madame de Noailles avec le regard de Colette.
La première fois que je l'aperçus, c'était à une fête chez le comte de Montesquieu, au pavillon des Muses. Elle était mariée depuis peu et portait la parure qu'on retrouve sur son portrait par Antonio de la Gandara. Une robe très pâle, couleur d'argent bleu, la taille sous les seins. Une petite bandelette de ruban maintenait ses cheveux rabattus sur son front. Je dis rabattu et non coupé. Ayant toujours repoussé l'injure des ciseaux, elle pliait ses cheveux sur son front, au-dessus des sourcils, d'une manière qui imitait la frange taillée.
Elle eut pour peintres officiels les plus grands poètes, les plus grands écrivains de son temps. Maurice Barrès, d'abord.
Charmante majesté de jeunesse et de génie. Son profil est éclairé d'un si bel œil oriental que je dis, nous continuerons d'écrire que vous êtes une jeune grecque, mais je sais bien que vous êtes la personne dans son jardin.
Jean Cocteau.
Vos yeux, qui de profil ont l'air d'être de face, et votre bouche mouvante, rapide, frisée et défrisée, coiffée d'une aile de corbeau, on croirait que vos larges prunelles sont peintes sur un bandeau masquant les yeux.
Est-ce ainsi que vous l'avez vue, Madame Colette ?
M'y prenant au rebours de ceux qui la célébrèrent, je ne dirais pas ce grand poète avait les yeux tour à tour éclatants et voilés, des traits fermement modelés, qu'un front inoubliable couronnait. Mais je dirais, doté d'un front plein de présages, d'un nez à la fine et dure attache orientale, de deux yeux profonds et vastes, Madame de Noailles était donc un grand poète.
Vous voici dans votre nouveau climat, comtesse de Noailles. L'aile exaltante de la gloire de Paris, effleure votre image blanche et noire. Et nous voici déjà dans l'erreur, car vous n'étiez pas seulement ce poète dont on ne discuta que le talent, jamais le génie. Vous étiez aussi merveilleusement accordé à ce monde. Vos vers parlent autant d'asphodèle que de brugnon, et le melon s'y arrondit tout aussi souvent que la rose. Qui donc disait de vous? Barès, dans ses cahiers, le note.
Si une enfant est jamais venue au monde dans un chou, c'est bien un âne Noaille.
Et je lis sur un volume d'Anatole France cette dédicace.
À celle qui, d'une voix divine, chante les légumes et les herbes potagères, le marchand des quatre saisons, Cringbille.
Il nous fallait cette petite halte au rez-de-chaussée de votre vie. Nous allons rejoindre vos cimes familières.
J'ai aimé la beauté. Sous le masque de la fatigue, de la maladie, du labeur, de la misère de l'âme et du corps, la beauté mystérieuse transporte les sens dans un séjour suave, autant que le sera l'éternel repos.
Un séjour suave, autant que le sera l'éternel repos. Vous écriviez cela 5 ans avant de mourir, mais c'est dès votre adolescence que vous fûtes fasciné par la mort. Vous n'aviez pas 20 ans que dans vos cahiers de poèmes, l'un des premiers, intitulé « La mort fervente », prenait place entre celui qui se nomme « Jeunesse » et celui qui s'appelle « Lumineux matin ».
Mourir, dans la buée ardente de l'été, quand parfumé, penchant et lourd comme une grappe, le cœur que la rumeur de l'air balance et frappe ses graines en douloureuse et douce volupté. Mourir, baignant ses mains aux fraîcheurs du feuillage, joignant ses yeux aux yeux fleurissants des bois verts, se mêlant à l'antique et naissant univers, ayant en même temps sa jeunesse et son âge. S'en aller calmement avec la fin du jour, mourir des flèches d'or du tendre crépuscule, sentir que l'âme douce et paisible recule vers la terre profonde et l'immortel amour. S'en aller pour goûter en elle ce mystère d'être l'herbe, le grain, la chaleur et les eaux, s'endormir dans la plaine au verdoyant réseau, mourir pour être encore plus proche de la terre.
Le goût de la mort exalte votre goût de la vie.
Mon âme aimait la vie, auguste, âpre ou facile. Aimez la mort aussi, votre bonne patronne, par qui votre désir de toute chose croît. L'hospitalière mort aux genoux reposant, dans la douceur desquelles notre néant se pâme, et qui vous bercera d'un geste, ma chère âme, inconcevablement éternel et plaisant.
Il nous fallait passer ce seuil d'ombre pour avoir droit à ce que fut votre éclat. Les cimes qui vous furent familières nous y seront guidées, soutenues par tous les noms considérables d'une époque dont nous sommes les descendants. Car votre chambre de la rue Schaeffer accueillait les grands de ce monde et ceux qui gouvernèrent ces grands.
Monsieur Henri Bergson, madame.
C'est monsieur Paul Pinlevé, madame la comtesse.
Monsieur Aristide Briand attend dans le petit salon.
Monsieur Einstein a téléphoné, madame la comtesse.
Monsieur Louis Barthoux est venu.
C'est monsieur Raymond Poincaré, madame la comtesse.
Monsieur Marcel Proust fait dire...
Attendez, attendez. Nous aurons à écouter plus longuement Marcel Proust. Nous n'avons pas encore entendu votre voix, comtesse de Noailles. Comment était-elle, cette voix, madame Colette?
Une voix inoubliable, de bronze et d'argent, qui distribuait aux présents et aux absents un équitable tribut de fleurs, de flèches, de couronnes, de sentences sans appel, éloquente, grandiloquente, volubile.
Et vous-même, comtesse de Noailles, dans une de ces phrases d'une précision de fronde dont vous déteniez le secret, vous avez bien des fois répété
« J'ai vécu au son de ma voix. »
Et tout cet univers futile et dédaigneux de 1900, de 1910, a vécu au son de votre voix. Votre orgueil d'enfant prend dès lors la mesure de vous-même.
Je suis inutile, mais irremplaçable.
Il est vrai que vous vous reconnaissez dans des personnages superbes.
J'ai lu la Cléopâtre de Shakespeare. Nous sommes pareils.
Nul ne vous a pourtant mieux jugé que vous-même.
Je suis féroce, mais sans l'ombre de méchanceté.
Paris émerveillé vous écoutait. Quelques-uns aujourd'hui encore parlent de vous. Puisque nous ne vous avons pas entendu, Jean Rostand.
Ceux qui ne l'ont pas connu ignoreront toujours jusqu'où peut aller la force expressive du langage dans le poétique, le profond, le drôle. Et quand j'évoque le prodige de son éloquence, si l'on peut appeler ainsi la vie à l'état pur qui explosait en paroles, je songe moins à ses volontaires démonstrations où elle se divertissait. Elle appelait cela « faire feu des quatre pieds » qu'à la façon toute spontanée dont elle parlait son existence quotidienne. Et que dire de ces portraits qu'elle traçait en quelques phrases péremptoires ? Cet inspiré avait la sagacité psychologique d'un Marcel Proust, la cruelle netteté d'un Jules Renard. Ses enivrements n'ont jamais fait tort à ses lucidités.
Si Tristan sentait l'ail, je le dirais.
Ces portraits caricaturent ou figuraient des termes de comparaison empruntés à tous les règnes de la nature, depuis le minéral jusqu'au mammifère, telle était leur force hallucinante, que plus jamais nous ne pouvions voir le modèle autrement qu'elle nous l'avait dépeint.
Et Paris répétait
« Cette Anna, elle est merveilleuse. »
Merveilleuse.
Et vous, qu'elle transforma en témoin émerveillé, Jean Cocteau.
Simone me fit connaître Anna de Noailles dans une voiture. Elle sortait de je ne sais quelle conférence. Sans l'ombre de préambule, elle me donna un spectacle dont ses intimes avaient l'habitude, mais capable de transformer en provincial n'importe quel spectateur nouveau. Je me souviens aussi d'un soir de réussite profonde. C'était chez la princesse de Polignac. La soirée finissait. Sur le pâle tapis de la savonnerie, les pupitres de l'orchestre et les chaises des auditeurs étaient échoués, en désordre. Tout à coup, j'aperçus assise entourée d'un groupe de dames la comtesse de Noailles. Que disait-elle ? Je ne sais plus. Je sais qu'elle parlait, et que la grande salle s'emplissait d'une foule, et que les jeunes gens s'asseyaient par terre, et les vieux occupaient des fauteuils à la ronde. Je sais que les domestiques en habit noir et les valets poudrés en culottes courtes s'approchaient du chambranle des portes entrouvertes. Je sais que par les fenêtres de juin, comme la valse d'un film de Lubitsch, comme dans ce film où Liszt jouait, les paroles de la comtesse enchantaient les arbres, les plantes, les étoiles, que ces paroles pénétraient les immeubles voisins, suspendaient les disputes, ornaient les sommeils, et que tout cela, de l'étoile à l'arbre et de l'arbre aux chauffeurs des limousines qui attendent, murmurait « La comtesse parle, la comtesse parle !»
Quelle présence ! Je suis sortie. Voulez-vous que je vous dise comment était la nature ce matin ? Si j'avais une plume au bout de chaque doigt, je vous dirais comment est la nature. Il y avait un oiseau ébouriffé, deux allumettes écartées et un bec ouvert immense qui criait, criait. Quel bonheur d'avoir de bons yeux. Je le voyais. Il était vilain, stupide, charmant. Il ne se doutait pas qu'il mourrait. Il faisait l'important, il croyait que c'était pour toujours. Plus bas, un gros papillon. Il faisait son marché. Ailleurs, un bourdon s'élançait dans une douce fleur, largement ouverte, l'innocente. Lui faisait des horreurs. Bonjour, monsieur Soudet. Quel plaisir m'a fait votre dernier article. Comme c'est bien de défendre Hugo, notre Hugo, Hugo tout entier, avec ses défauts expressifs, ses magnifiques verrues, enfin, tout ce que vous adorez, comme moi.
Mais je ne savais pas que vous l'aimassiez à ce point.
Comment, monsieur Soudet ? Mais alors que saviez-vous de moi ? Vous qui aimez mes vers, je les aime aussi, d'ailleurs. Ignorez-vous que j'ai demandé pour mon épitaphe cette simple phrase ? Elle défendit Hugo. Moi qui suis, nul ne l'ignore, socialiste, n'est-ce pas un lien de plus entre moi et notre Hugo, qui a eu la passion de la liberté, en fait, qui est resté sur son rocher d'exil ? Combien de temps, cher monsieur Soulet? 30, 40 ans?
19 ans, madame.
Oh, c'est terrible. Je n'aurais jamais cru tant.
Chère Anna, direz-vous un mot à notre duchesse, là-bas?
Est-ce cette noble personne qui a l'air d'un fort percheron? Elle ne répond en rien à l'idée romantique que je me faisais des duchesses, ces 10 ans. Cependant, moi-même, je sais que je suis très petite. Oh, un japonais admirable! Oh, mais savez-vous, mon cher Barès, il est à l'hôpital, j'ai été le voir. Il avait l'air d'une émeraude sur un oreiller. Eh bien, ma chère amie, il voulait faire mon portrait. Je lui ai dit, faites-moi debout, afin qu'on dise comme elle est petite, et pourtant c'est elle qui a fait de si grands verres. Oh, ah, mais, cher monsieur Soudet, nous sommes d'accord. Vous mettez Pascal avant tout, au-dessus de tout, n'est-ce pas?
Mais oui.
Et dans Pascal, nous saluons d'abord cet étonnant discours sur les passions de l'amour. Eh bien, je vous jure qu'à 10 ans, quand j'ai lu Pascal pour la première fois, j'ai tout compris. C'est-à-dire que personne, jamais personne, n'avait tant aimé, donc tant redouté les femmes. Ah, il faut que je m'en aille. Cher Barès, dites ici à tous nos amis cette phrase que vous avez murmurée l'autre jour et que je garde comme la plus précieuse, vous savez bien. Voyons, vous savez bien.
Qu'une si petite personne soit le point le plus sensible de l'univers.
L'univers vous remerciera d'avoir su le dire. C'est ça. Cher ami, est-il plus de minuit?
Restez, je vous en prie, il n'est qu'une heure du matin.
J'ai reçu aujourd'hui l'admirable serpent de Valérie. Savez-vous la dédicace?
Non.
Elle emplit la page et elle est en vers. La voici dans ma mémoire tout entière. Noaille, non pareil. Cette secrète oreille où les muses vous ont fait oraison, aux bêtes étant closes, le serpent même n'ose y geindre son grand air du fruit amer, car les fruits que tu cueilles dans l'âme aux belles feuilles, que tu cueilles pour nous, ne sont que doux. Et Dieu même se pique, Noailles magnifique, de préférer vos vers à l'univers.
Et c'est d'une rosserie.
Mais il faut que je rentre. Marcel m'a fait porter un mot, vous savez, un de ces hymnes du matin, un de ces Angélus du soir.
Ah oui, le petit Proust.
Qui me parviennent dans des enveloppes surchargées de taxes supplémentaires, ou encore par l'entremise d'un cocher de fiacre, amicalement traité, qui demande à m'expliquer de vive voix le post-scriptum verbal dont l'a chargé notre ami. Il doit m'attendre. J'aime son bel œil de rossignol du Japon. Un œil tout en liqueur brune et dorée.
Un peu timide, Marcel.
On le voit toujours dans les portes, appuyé au chambranle.
Mais cette incroyable modestie. Il en a réussi la confection avec l'adorable et scandaleuse adresse qui n'eût pas été parfaite si elle n'eût eu pour base le marbre le plus net, la sincérité. Au revoir, ami. Ce dîner était un poème en plusieurs chants. J'en emporte la symphonie. Au revoir. Au revoir.
N'est-ce pas vous, cher monsieur Barès, qui disiez « Elle a plus de génie que de talent ?»
Mais j'admire énormément ce que son génie a de naturel. Je dirais de familier. Elle a le soleil comme une fleur dans sa main.
C'est incroyable, elle n'a dit du mal de personne ce soir.
Elle a l'art de lapider.
Oui, mais avec des pierres précieuses.
Mais vous, chère Marie, qui dites les vers si parfaitement?
Oh, des vers d'Anna, quelle bonne idée!
Elle regrettera d'être partie.
Écoutons, nous écoutons. Chut.
Des poèmes, mais lesquels?
Ces vers sur l'île de France.
Ou ce poème pour les jeunes hommes, vous savez?
Les deux.
Ah, oh, oui, si oui. Vous voulez. Mais des fragments seulement du poème sur l'île de France. Sinon, c'est long.
Oui, c'est ça.
Sous les arbres feuillus qu'un peu de jour agite, le petit jour éclot dans le sable vermeil. Comme un lièvre inquiet glisse hors de son gîte, peureux, le cœur timide et les yeux en éveil. On croit que l'on va voir l'ombre de la fontaine dans les chemins plaisants marcher près de Pérou. Oh. Tant le jour a de grâce amortie et lointaine, sous le ciel si léger, si sensible et si haut. Oh, si j'ai quelquefois désiré voir la Perse, si Venise me fût le dieu que je rêvais, de quel autre bonheur plus tendre me transperce? La douceur d'un beau soir qui descend sur Beauvais.
Voilà qui doit ravir, monsieur Barès.
Mais cela me ravit, madame.
Il faut admirer, bénir, remercier notre langue française qui donne à une ignorante, mais à une ignorante qui a le sens de la langue, toute la formation intellectuelle antique. C'est par la langue que le trésor du génie antique s'est maintenu en France. Elle était née pour le sentir.
Savez-vous comment elle travaille ?
Si l'on voulait savoir comment Madame de Noailles travaille, il faudrait entendre ce que dit Mozart de son propre travail.
Est-ce qu'il y a très longtemps?
Monsieur Bergson au téléphone, Madame la Comtesse.
Monsieur Bergson, toute la philosophie de ce temps. Ah, quelle émotion, donnez-le-moi vite. Tenez, prenez mon manteau, Sarah, et dites à Monsieur Proust que j'arrive. Allô? Allô? Comment, pardon? Ah, c'est Tristan de Rheim. Cher ami, vous n'êtes encore ni philosophe ni académicien? On vient de vous métamorphoser et de vous compromettre. Allô? Quoi? Qui, moi? Mais mon ami, mais je meurs, je suis morte. Il ne peut plus être question que je paraisse en public. Vous ne comprenez pas? Vous n'entendez plus? Non, je ne dis pas que j'ai dit tic, je dis en public. Pu, comme ma femme de ménage dit un pureau. Iblique! Ah, vous y êtes? Non, non, mon ami, je vous en prie, n'insistez pas. Quoi, pour les poètes? Mais cher homme, mais j'ai tout fait pour les poètes, tous les poètes, sans qu'ils s'en doutent, puisque j'ai fait les vers meilleurs qu'aucun d'eux n'espère seulement pouvoir en faire. Vous dites? Vous avez peur qu'on ne le répète? Attendez. Attendez, nous allons voir tout de suite si nous sommes mouchardés. Mouchard, es-tu là? Nous entends-tu, Mouchard? Il ne dit rien, c'est donc qu'il est là, vous aviez raison. Eh bien, consolez-vous, j'irai. Je ferai encore un effort qui me mènera sans doute au tombeau. Ne faut-il pas un jour que j'y descende aussi, tôt ou tard? J'irai donc dire mes vers, mais à une condition, et ne vous rejavez pas. Entendez-moi avec une sainte patience. Je ne viendrai qu'à la condition que vous me permettiez de me mettre une barbe. Vous n'entendez pas? Je n'entends rien. Je suis sans voix, il est sourd. Une barbe! Oui! Ah, il y est. Je me mettrai des favoris. Je désire voir, mais ne pas être vu. Je désire entendre mes vers et les juger avec l'esprit d'un vieux monsieur. Comment vous voulez venir? Mais venez, justement, Marcel m'attend à côté. Non? Après-demain. Après-demain, mon cher ami, au revoir. Sarah, donnez-moi ma robe de chambre, la plus belle, la bleue. Non, celle dont René Benjamin dit qu'elle est couleur de lune en or, comme il en monte dans le ciel à l'automne, après les vendanges. Celle-ci, oui. Cher Marcel, que je suis enfin heureuse de cette heure près de vous. Ah non, ne me dites pas que vous m'avez attendu trop longtemps. Pourquoi n'étiez-vous pas parmi nous ce soir?
Non, mes chers amis, je...
laissez-moi parler. Nos réunions amicales sans vous, c'est Paris sans le Louvre, Londres sans ses parcs, Palerme sans son jardin botanique. Me voilà, mon cher Marcel. Combien de temps me faudra-t-il attendre que vous me parliez de vous?
Madame, je vous en supplie, cessez d'être aussi gentille, car je ne peux plus le supporter. C'est un poids de bonheur, d'émotion, de stupéfaction qui est trop fort et j'en mourrai. J'ai été si souffrant et vos lettres m'ont fait vivre pendant mes jours de maladie une vie des mille et une nuits, qui a aboli en moi le sens de la réalité. Tellement que je n'ai été nullement étonné quand on m'a dit que vous aviez été chez moi.
Oh, parlez, Marcel. Si vous saviez le bien que vous me faites à me prouver que ce n'est pas tout à fait en vain que je mets tant de courage à vivre encore pour ceux qui m'aiment. Et c'est fini, je suis épuisée, je vais mourir.
Minerve, Jupiter, Vénus, entrez de temps en temps chez les mortels. Prenez connaissance de leurs actions et leur adressez des félicitations. Je n'ai rien à envier à Ulysse, car mon Athénée est plus belle, a plus de génie. Et c'est plus de choses que la sienne, et elle vient chez moi pendant que je dors. Mais j'ai lu tout de même Homère et les mille et une nuits plus aisément, n'étant plus gêné par l'invraisemblance qui fait la trame pourpre de ma vie nouvelle. Mais vous, quels autres mortels avez-vous ravis pendant que je dormais?
À vous seul, mon petit Marcel, je lirai la lettre admirable que le courrier de ce matin m'a apportée. Elle est de Georges Bernanos, là. Tenez ce papier sous la lampe. Merci, là. Je suis un ours, non plus loin. Votre trop généreuse et trop gracieuse sympathie est aussi cruelle sans le savoir. Je ne la mérite pas. Je ne puis plus seulement ouvrir l'un de vos livres sans rougir de vous avoir laissé ignorer qu'ils sont depuis longtemps mes ennemis familiers,
que je repousse de toutes mes forces ce grand bruit que vous faites de mer lointaine et de feuilles remuées, et qu'un des buts de ma pauvre vie est de vous renoncer parfaitement. Je sais bien que la dernière grossièreté serait de vous en demander pardon.
Oui.
Pourtant, l'ai-je assez dit dans ce poème où je pleurais d'avance ma peur ? Hélas, tu t'en iras un jour de moi, jeunesse. Tu t'en iras, tenant l'amour entre tes bras. J'ai vu Francis James l'autre jour. Vous vous en souvenez, Marcel ? C'est vous qui, le premier, m'avez lu un recueil de James. Il y apparaissait dans son paradis rustique de dieux campagnards, couvert de rosée et d'argile, faisant naître sous ses pas pesants la campanule et la digitale. C'est depuis ce soir-là que j'aurais voulu lui décerner le prix fondé sans doute dans les cieux par Saint-François d'Assise, si toutes les bêtes volantes, velues de sa contrée béarnaise, incomparablement décrites par lui, ne finissaient pas l'œil éteint, le col renversé et sanglant dans sa gypsière.
Il est venu à Paris, vous l'avez vu ?
Oui, rue de Bellechasse, chez Madame Alphonse Daudet. J'arrivais coiffée de paille et de coquelicot. Cocteau me dit, regardez, voilà Francis James, ce superbe triton vermeil qui navigue de groupe en groupe, sonnant d'une étonnante trompette nasale. Il est venu vers moi, il a pris mes mains, mes toutes petites mains.
Vos mains de princesse enfant.
Et il se penchait sur moi et répétait, voilà la grande, la grande.
La grande. On vous appellera dans la postérité en vers Noailles, tout court.
Jeunes hommes d'aujourd'hui, ces ombres qui nous sont chères ont-elles dit vrai ? La gloire d'Anna de Noailles, qu'en disent aujourd'hui les anthologies de poésie française ? Quelle est la place de Madame de Noailles dans l'anthologie d'André Gide ?
Il ne la nomme pas.
Quelle est sa place dans l'anthologie de Thierry Monnier ?
Il ne la nomme pas.
Les poètes modernes ?
Il l'ignore.
Demandons à l'un de nos plus jeunes, mais aussi de nos plus judicieux critiques, Roland Barthes, le pourquoi de ce refus. Entre la poésie moderne et celle de Madame de Noailles, y a-t-il un tel abîme, Roland Barthes ?
La poésie est comme le vaisseau de Jason. Le temps en change peu à peu chaque pièce, si bien qu'en fin de compte, il n'y a dans le vaisseau neuf plus rien du vaisseau ancien, plus rien sauf le nom. Eh bien, de même, il n'y a aucune identité de structure entre la poésie classique et la poésie moderne. Et Anna de Noailles n'aurait aucun titre à figurer dans une histoire incendiaire de la poésie, la seule qui mériterait sans doute d'être écrite. Mais si pour sa part elle n'a point fait avancer la révolution poétique, s'essoufflant après Hugo alors que Rimbaud était déjà mort, du moins représente-t-elle parfaitement bien ce fragile et dernier moment de l'histoire poétique française où le mot, appelé vers une liberté nouvelle, ne l'entrevoit que comme un rêve et n'abandonne pas encore le rassurant alibi de l'ordre ancien. C'est le dernier jour de l'antique vaisseau Argo.
Demandons maintenant à ces jeunes hommes, à qui Madame de Noailles apportait son offrande, si nul d'entre eux, demandons l'avis de ce très jeune héritier de la poésie surréaliste, cet authentique poète, bien qu'en prose, qu'est Guy Dupré, l'auteur de « Les fiancées sont froides ».
À 18 ans, je ne connaissais de la comtesse de Noailles que la suite d'épithètes dont les surréalistes l'avaient gratifiée au lendemain de sa mort. Vous savez bien, c'était une bacchante orphique, asiatique, romantique, pathétique, superbe, accablée, riche, plate, molle, inexistante. Je ne tardais pas à déchanter, ou plus exactement, à me dire qu'un enchantement n'interdisait pas un autre enchantement. 4 ou 5 poèmes d'elle, que me lut une amie qui fut aussi son amie, Madame Simone, me donnèrent le choc d'où procède toute nostalgie et tout culte secret. En somme, les éléments affectifs d'une rencontre, moins les regards et la bouche. Que la comtesse de Noailles n'ait pas hanté les mardis de Mallarmé, qu'elle n'ait eu aucun souci de la pureté au sens valérien du mot, je le veux bien. En fait, elle avait plus que du talent. Et c'est là le seul signe royal. Je donnerais bien la moitié des Loirs pour ce seul poème. J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti, d'un cœur pour qui le vrai ne fut point trop hardi. Et j'ai eu cette ardeur, par l'amour intimé, pour être après ma mort parfois encore aimé. Et qu'un jeune homme alors lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému,
troublé, surpris, ayant tout oublié des épouses réelles, m'accueille dans son cœur et me préfère à elle. Paraphrasant la dernière strophe de ce poème, je dirais simplement qu'il y eut au moins un jeune homme, contemporain de Sartre, pour accueillir dans son âme et préférer certains soirs aux épouses réelles cette incomparable morte.
Dans le jardin, sucré de yaies et d'aromates, lorsque l'aube a mouillé le serpolet touffu et que les lourds frelons suspendus aux tomates chancellent, de rosée et de sève pourvus, je viendrai sous l'azur et la brume flottante, ivre du temps vivace et du jour retrouvé. Mon cœur se dressera comme le coq qui chante insatiablement vers le soleil levé. Des brugnons roussiront sur leurs feuilles, collés au mur où le soleil s'écrase chaudement. La lumière emplira les étroites allées sur qui l'ombre des fleurs est comme un vêtement. Un goût d'éclosion et de choses juteuses montera de la courge humide et du melon. Midi fera flamber l'herbe silencieuse. Le jour sera tranquille, inépuisable et long. Je ne saurai plus rien des choses de ce monde, des peines de ma vie et de ma nation. J'écouterai chanter dans mon âme profonde l'harmonieuse paix des germinations. Mes livres, je les fis pour vous, ô jeunes hommes. Et j'ai laissé dedans, comme font les enfants qui mordent dans les pommes, la marque de mes dents. J'ai laissé mes deux mains sur la page étalée, et la tête en avant j'ai pleuré, comme pleure au milieu de l'allée un orage crevant. Je vous laisse dans l'ombre amère de ce livre, mon regard et mon front, et mon âme toujours ardente et toujours ivre, où vos mains traîneront. Je vous laisse le clair soleil de mon visage, ces millions de raies, et mon cœur faible et doux, qui eut tant de courage pour ce qu'il désirait. Je vous laisse ce cœur et toute son histoire, et sa douceur de lin, et l'aube de ma joue, et la nuit bleue et noire dont mes cheveux sont pleins. Voyez comme vers vous, en robe misérable, mon destin est venu. Les plus humbles errants sur les plus tristes sables n'ont pas les pieds si nus. Et je vous laisse, avec son feuillage et ses roses, le chaud jardin verni dont je parlais toujours, et mon chagrin sans cause qui n'est jamais fini.
Voyez comme vers vous, en robe misérable, mon destin est venu.
Et tel autre poème qui n'a pas de titre, pris dans la brassée des poèmes de l'amour, nous le dira-t-elle.
Je possédais tout, mais je t'aime. Mon être est par moi déserté, je vis distante de moi-même. Implorant ce que j'ai été, songe à cette mendicité.
Tout au long des poèmes d'amour, la même note douloureuse.
Tu sais, je n'étais pas modeste, je n'ignorais pas les sommets où je vivais, puissante, agreste, rêveuse, universelle. Mais j'ai soudain vu ton visage, un clair et vivant paysage, où morne, insensible, lassé, tu m'as défendu de passer.
Thank you. Mais le temps était venu de la première catastrophe. Personne ne le comprit vraiment. Les crieurs de journaux ne savaient pas non plus qu'ils annonçaient la fin d'un monde.
La guerre sociale, dernière édition, demandez l'assassinat de Jaurès.
Le journal Jaurès assassiné rue du Croissant. Demandez le journal, dernière.
L'assassinat de Jaurès. Jaurès assassiné.
Anna de Noailles fit un poème, puis un autre sur l'assassinat de Jaurès. Peu après, des jeunes hommes vinrent la saluer dans sa chambre, et elle les appela héros, parce qu'ils allaient mourir. Et de 1914 à 1918, elle fit d'autres poèmes qu'elle intitula « Les forces éternelles ». N'était-on pas victorieux ? Cependant, la mort passait de plus en plus souvent près d'elle. Les visages qu'elle emportait étaient toujours les visages les mieux aimés. Anna de Noailles était de plus en plus lasse. Pourtant, elle ne montrait encore de sa fatigue qu'un aspect inventé. Ceux qui ont su l'aimer comprirent le jeu qu'elle jouait avec la mort. Madame Colette.
Je respectais la capricieuse fragilité que beaucoup croyaient affectée. Les écarts d'une santé sur laquelle elle garda longtemps un secret courageux et pudique. Car elle se taisait souvent sur ses souffrances, sauf qu'elle s'écriait chroniquement « Je suis mourante » avec un éclat qui déconcertait toute crédulité. Ni le commun des mortels ni ses amis ne crurent qu'elle mourait, tant que Madame de Noailles, d'une clameur forte ou d'un ton enjoué, l'annonça elle-même.
« Cher ami, je ne peux pas, je suis mourante, et il y a si longtemps que je meurs. Mais oui, ils viennent. Si je leur dis, je leur dis tout. Je dis, docteur, ça ne va pas, je me sens modeste. »
Jean Cocteau.
C'était vrai, elle faisait venir les médecins. Mais ce n'était pas pour qu'ils la soignent. C'était elle qui les soignait. À cette époque, nous avions encore nos disputes interminables et affectueuses. Je me souviens un soir, la dispute vint de ma lettre à Maritain. La comtesse, brandissant une chaise, me poursuivit en longue chemise jusque sur le palier. Elle se courbait, empoignait la rampe, criait « Du reste, c'est simple. Si Dieu existe, je serai la première à en être avertie. »
Il est l'heure d'ouvrir ma mémoire la plus attendrie, de vous faire entrer sur mes pas, à petit bruit, dans la chambre où Madame de Noailles vécut longtemps, avant d'y mourir. Étroit univers d'où son âme à travers les parois s'élançait, chambre réduite presque à un lit, lit qui cessait d'être une couche pour mériter le beau nom d'atelier. Quand je revenais d'un été de campagne, je m'amusais à prendre dans ma main une des mains d'Anna de Noailles. Ses doigts et sa paume brillaient au creux de ma main comme la chair blanche d'une noix dans son écale sèche. C'est au gré de cette petite main lumineuse, levée au-dessus des draps dans un geste d'appel, que je m'approchais parfois, les deux ou trois dernières années de sa vie, du lit où gisait Madame de Noailles. Il était 11 heures ou midi dehors. Dans la chambre, il était l'heure noire de dormir, de souffrir. Elle s'éveillait, accélérait son rythme. J'avais à peine le temps de répliquer, de poser une question, une seule, à laquelle elle répondait le mot qu'elle nuançait de mille manières. « Moi, mais ma chère, je suis mourante. » Dans ce temps-là, elle le jetait encore avec une sorte de défi, avec l'accent éclatant de la santé, ou comme l'énoncé d'une formalité simple.
Oui, on la croyait une fausse malade. On avait traité Proust de faux malade aussi. Dire « je suis mort »,« je suis morte », au lieu de dire « je suis fatigué », c'est de l'imagination. Les poètes malades imaginaires. Ils meurent. Quelle surprise, quelle inconvenance. On nous croyait faits en acier.
Une seule fois, elle me dit « aidez-moi », car elle se sentait souffrante et voulait s'asseoir sur son lit. Une seule fois, j'ai saisi à plein bras son corps léger, car nul autant qu'elle ne refusait les contacts affectueux et les petits baisers de bienvenue. Un seul moment, elle a appuyé sa tempe contre mon épaule. et j'en ai ressenti l'émotion brusque qui nous envahit quand nous étreignons un enfant. Ce matin-là, rien qu'en appuyant sa tempe contre moi, rien qu'en tenant close l'espace d'un moment, ses paupières et ses lèvres, celle qui n'était devant tous que jeux éblouissants du verbe et lueur guerrière, m'a annoncé qu'elle était près de finir.
Pourquoi sa mort me fit-elle penser à la mort sublime du scorpion qui se poignarde, entouré de flammes? Après ma mort, j'irai voir Anna de Noailles. Je traverserai le vestibule de nuages, je pousserai la porte et j'entendrai la voix de dispute. Mon petit, vous le voyez, il n'y a rien, rien après. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit. Et pour ma joie éternelle, tout recommence. La comtesse parle.
La radiodiffusion française vient de vous présenter Leur figure, une émission de Jean Amrouche. Aujourd'hui, Anna de Noailles, poétesse extraordinaire, texte de Dominique Arban, avec René Faure, sociétaire de la Comédie française, Paul Bernard, Lolé Bellon, Charles Camus, Anne-Marie Cortis, Frédéric Hébrard, Jacques Mancier, Robert Marcy, Pierre Olivier et Pierre Rénal. Bruitage, Gabriel de Rivage. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.
C'était Anna de Noailles, un programme diffusé pour la première fois à la radio publique le 3 mai 1954 dans l'émission de littérature et de théâtre de Jean Amrouche, Leur figure. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur franceculture.fr à la page des nuits.